Opération port mort. De Marseille au Havre, en passant par Dunkerque, 7 grands terminaux maritimes au total sont à l'arrêt jusqu'à demain. Les dockers ont rejoint la contestation contre la réforme des retraites. Ils ne sont que 4000 en France, mais à eux seuls, ils ont la capacité de paralyser l'économie du pays à l'appel de la CGT. Après les raffineries la semaine dernière, Philippe Martinez mobilise tous ses bastions syndicaux stratégiques. Et quand on lui demande s'il veut bloquer le pays, il joue sur les mots.
Nous appelons à faire grève.
Mais pas à bloquer donc.
Nous appelons
à bloquer les dépôts peut-être.
Je vous le redis une autre fois, la CGT appelle à faire grève.
Dans les transports, même leitmotiv. Un noyau dur de grévistes termine ce soir son 42e jour de grève. Depuis presque un mois et demi, il perturbe les déplacements de millions de franciliens.
C'est scandaleux que tous ces syndiqués bloquent Paris et tous ces gens qui ont besoin d'aller travailler, qui ne sont sûrement pas des nantis.
Malgré les coups de gueule, les bousculades et les journées à rallonge, beaucoup d'usagers soutiennent les grévistes de la SNCF et de la RATP.
On est dans le privé, on se dit que si eux ils lâchent, nous on perd aussi. Donc nous on n'a pas de moyens de pression, donc c'est pour ça qu'on est 100% avec eux.
À tort ou à raison, beaucoup de salariés du privé estiment qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire grève. Principales explications, la multiplication des contrats courts et le faible taux de syndicalisation en entreprise. Alors une partie des salariés du privé fait-elle grève par procuration en soutenant des mouvements sociaux portés par les secteurs publics? L'obstination des bastions syndicaux révèle-t-elle paradoxalement la faiblesse des organisations dans le privé? Toutes les grèves sont-elles légitimes?
Fidèle qui nous adresse cette question depuis Jean-Marc Blériot.
Ah bien sûr.
Depuis 42 jours, les grévistes ne respectent-ils pas scrupuleusement la loi? Rémy Bourguignon, la question est pour vous. Pouvez-vous nous expliquer ce que dit la loi française précisément sur le droit de grève dans le pays?
Alors, la loi en elle-même ne dit pas grand-chose. C'est plutôt la jurisprudence qui s'est construite sur le temps long et qui nous explique qu'au fond, la grève, c'est quoi? C'est une cessation d'activité. Ce sont des travailleurs qui décident de suspendre leur contrat de travail parce qu'ils ont des revendications. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils ne sont pas rémunérés pendant la grève. C'est parce qu'ils ne remplissent pas leur part du contrat pour faire la démonstration de qu'ils sont utiles, qu'on a besoin d'eux, et c'est un moyen pour construire du rapport de force et qu'on obtenir de leur employeur, puisque normalement la grève est plutôt pensée vis-à-vis de l'employeur que vis-à-vis de l'État, pour obtenir leurs revendications.
D'accord. Le chiffre du jour, Anne, pour qu'on comprenne où on en est aujourd'hui précisément.
Aujourd'hui précisément, 4,7%. Voilà, c'est le taux de grévistes à la SNCF. Aujourd'hui, bien sûr, on est loin des 55% du premier jour de grève, le 5 décembre dernier. Mais donc, si on comprend bien, ça veut dire que 95% des salariés de la SNCF travaillent aujourd'hui. Comment on explique alors la disproportion, on va dire, avec le blocage, Aurélie Trouvé?
Je connaissais pas ces chiffres, mais par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que par exemple, il y a plus d'un quart des conducteurs qui sont effectivement en grève. Et ils exercent leur droit de grève. Et effectivement, la grève appartient aux grévistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on exerce un droit de grève parce qu'on considère que ses droits sociaux, que ses droits professionnels sont attaqués. Et en l'occurrence ici, ils considèrent, de mon point de vue à très juste titre, que ce projet de réforme de retraite va abaisser leur niveau de pension et va faire reculer l'âge de départ en retraite, ce qui explique qu'ils sont aujourd'hui encore massivement mobilisés, notamment dans ce corps professionnel.
Et sur le mécanisme qui explique, c'est parce que c'est une certaine catégorie de profession qui est mobilisée, c'est ça? Les conducteurs, surtout.
La grève n'est pas seulement légale, elle est garantie par la Constitution, c'est quand même pas tout à fait rien. Et moi, je trouve qu'il faut commencer par dire que la grève est... Absolument. La grève est respectable, entre autres, parce que c'est un sacrifice pour les grévistes. Alors, bien sûr, après, il y a généralement des caisses de grève, mais ça ne suffit pas toujours à couvrir. Et donc, c'est un sacrifice, c'est respectable, c'est protégé par la Constitution, il n'y a pas de discussion sur ce sujet. Sur le fait qu'il y ait assez peu de grévistes et des blocages considérables, c'est parce que les grévistes s'organisent. Et là encore, c'est tactiquement parfaitement compréhensible. On s'organise quand on a décidé de faire un mouvement de grève avec un maximum de blocage, avec un minimum de coûts, pour que ce soit ceux qui ont le plus d'impact, qui s'absentent, parce que si vous n'avez pas de conducteur, tout le monde n'est pas qualifié pour conduire évidemment une motrice ou une rame de métro. Alors, quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'en réalité, la grève est légale, mais à condition qu'elle soit la grève, qu'elle ne soit que la grève et qu'elle ne soit rien d'autre.
Qu'est-ce que vous entendez par là, qu'elle ne soit pas la grève Mouchon?
Il y a aussi un droit qui est protégé par la loi, et c'est bien naturel, c'est le droit de travailler. Et ce qu'on sait, c'est qu'une partie des blocages tiennent non seulement au fait que, et ça, il n'y a rien à dire, c'est ce que je viens de signaler, l'organisation est faite pour ça, Mais une partie des blocages tiennent aussi au fait qu'il y a ce qu'on appelle pudiquement des piquets de grève, et ça c'est parfaitement illégal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont généralement un peu plus larges que moi,
qui
sont à l'entrée des entrepôts et qui empêchent ceux qui veulent travailler de venir travailler. Là on sort complètement de l'exercice normal du droit de grève. On comprend le souci d'efficacité de ceux qui les organisent, mais là ils sont complètement hors la loi, et il y a en France malheureusement à mon avis une mansuétude considérable à leur endroit.
Ça vous fait sourire, mais il a raison votre voisin ou pas, Aurélie Trouvé ?
Moi, je veux juste dire une chose,
c'est qu'aujourd'hui,
vous pouvez dire ce que vous voulez sur le mouvement de grève. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a une opinion publique qui est très majoritaire.
On va en parler.
En faveur de... Oui, mais c'est important parce que, en fait, tout ce qui se passe actuellement, y compris les blocages, les manifestations, etc., ont le soutien d'une grande majorité de l'opinion publique.
Il y a malgré tout une raison pour faire des commentaires.
Et ensuite, il y a une diversité de mobilisation.
Et est-ce qu'il n'y a pas parfois de l'intimidation?
Je préférerais parler des manifestations massives qui ont lieu depuis maintenant. Oui, mais c'est très important parce qu'il faut le souligner.
C'est un autre sujet.
Oui, mais c'est vous amenez ce sujet-là. Moi, j'amène le sujet de toutes les formes de... Oui, je vous dis que moi, je souligne les formes de mobilisation effectivement très plurielles, diverses, dont une démobilisation massive dans les rues. Je tiens à souligner ça. Tout un tas d'assemblées générales, les caisses de grève, les actions solidaires pendant tous les 15 jours des vacances pendant lesquelles le gouvernement pensait que la mobilisation allait s'estomper. Je pense que c'est cette diversité-là qu'il faut souligner.
Aurélie Trouvé, on va regarder une courbe.
Vous parliez justement
par rapport à l'opinion et à la popularité des grèves.
Exactement, le sentiment vis-à-vis de cette grève sur la retraite. Donc la courbe va s'afficher. Elle a un petit peu faibli, mais c'est vrai que globalement, c'est resté un peu stable. Et on est encore à 49% de soutien à cette mobilisation contre la réforme des retraites, ce qui est encore assez grand. Alors, est-ce que c'est un phénomène de grève par procuration, Rémy Bourguignon? Ou est-ce que c'est que finalement, dans un moment où les gens considèrent que c'est difficile pour tout le monde, eh ben, ils comprennent que chacun défend son bout de gras, même si c'est son bout de gras personnel, régimes spéciaux, etc. Est-ce que c'est finalement ce signe-là que...
C'est acquis,
et on se dit, c'est pas les miens, mais ils ont bien le droit de défendre les leurs, c'est dur pour tout le monde. C'est quoi le mécanisme?
Oui, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, mais c'est probablement pas un soutien à l'idée qu'il faudrait sauver les régimes de retraite, puisqu'on sait que ces régimes spécifiques de retraite, ces régimes spéciaux, ont plutôt mauvaise presse et mauvaise image dans l'opinion publique. Et donc, on imagine que c'est pas des gens qui disent « ils ont bien raison, leur régime est tout à fait légitime et on le défend ». C'est plutôt l'idée, celle qui est effectivement défendue par les organisations syndicales à travers cette notion de grève par procuration, c'est l'idée que finalement, on n'a pas tous la même capacité à se mettre en grève. Les salariés à statut, évidemment, grâce à leur protection de l'emploi, ont une capacité de mobilisation et qu'ils mettraient au service de l'intérêt général. Et c'est là qu'on retrouve cette histoire de bataille de l'opinion, c'est de savoir est-ce que la mobilisation, c'est des mobilisations catégorielles de gens qui défendent leurs intérêts, ou est-ce que finalement, ces régimes spéciaux se présentent comme le dernier rempart pour résister aux politiques libérales qui viendraient remettre en cause là, les régimes spéciaux, mais derrière, effectivement, tout un tas d'autres protections sociales. Et donc, on voit bien là depuis le début du mouvement, c'est très net, cette bataille où le gouvernement dit non, c'est bien des régimes spéciaux qui se mobilisent pour défendre leurs propres intérêts, et puis à côté des organisations syndicales qui développent tout un argumentaire en disant non, on est les représentants d'un intérêt général, et c'est au nom de cet intérêt général qu'on fait grève. Le problème, c'est que évidemment, il y a un décalage entre ceux qui se mobilisent et puis ceux qui sont prétendument représentés.
Que dit Philippe Manière?
Non, moi je dis que j'entends ça, et effectivement il y a un certain nombre de gens qui pensent comme ça, et c'est leur droit, et à certains égards on peut le comprendre. Je pense aussi qu'ils ne sont pas suffisamment informés, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, d'abord ces régimes spéciaux coûtent à peu près 2 milliards aux contribuables chaque année, ça veut dire que ce sont les autres qui payent pour que les gens de la SNCF ou de la RATP puissent partir à 52 ou 57 ans au lieu de 62 ans pour les autres. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'on fait grève au nom des autres, mais enfin quand c'est pour défendre un avantage qui est si considérable et si coûteux pour les autres, ça me paraît être un argument qui vole moyennement. Et puis d'autre part, ce qu'on voit depuis un mois, c'est que petit à petit, le gouvernement recule. Je peux le comprendre en termes tactiques, mais on voit qu'il lâche précisément un maximum de choses à ceux qui font grève et ceux qui sont le plus capables de bloquer. Les aiguilleurs du ciel, les salariés bénéficiaires, enfin les agents bénéficiaires des régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF. Et donc à l'arrivée, on va se retrouver sur la base de ce raisonnement un peu bancal que vous avez évoqué à juste titre, avec en réalité des retraités normaux, c'est-à-dire comme vous et moi, qui eux vont y passer pour des raisons démographiques absolument incontournables, et une préservation bien plus considérable que prévu de ces régimes spéciaux qui sont coûteux et qui sont extraordinairement généreux. Donc si on fait grève pour les autres, c'est pas pas pour qu'à l'arrivée, il n'y a que soi qui en bénéficie.
Oui, faites-moi écouter, écouter Philippe Martinez.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui a eu son idée sur le fait que la grève soit ou non majoritaire. Aurélie, trouvé ultra majoritaire, est-ce que c'est quand même pas un petit peu exagéré?
Alors déjà dans l'opinion publique ça a été dit, hein, bah, et il faut aussi souligner le fond de la attends, sur le soutien à la mobilisation, non, parce que le sondage d'hier d'Harris Interactive, 60% soutiennent le mouvement de grève,
de Français, hein,
voilà, de Français qui soutiennent le mouvement de grève quand même, là, et par ailleurs une majorité aussi de la population, 67%, inquiète du projet de retraite, et une majorité aussi opposée au projet de retraite. Je crois que ça c'est très important, donc oui, je pense qu'on peut aller dans sens-là. Par ailleurs, oui, il y a beaucoup de secteurs qui sont en lutte. Moi, je vais vous parler du mien, l'enseignement-recherche. Il se trouve que ce n'est pas seulement le projet de retraite. C'est aussi tout un rouleau compresseur néolibéral du gouvernement qui est en route. Par exemple, nous, on va avoir un projet de loi en cours sur l'enseignement-recherche qui est terrible, hein, pour l'enseignement et la recherche. Et donc, il y a de plus en plus de facs, de labos en lutte, parce qu'on voit bien aussi que derrière ce projet de retraite, il y a tout un projet de transformation néolibérale de la société. Et il y a une défense de l'État social, il y a une défense des fonctions, de la fonction publique, des services publics qui sont derrière. Mais il est vrai que cette bataille de la réforme de retraite, elle est essentielle parce qu'elle est considérée, en tout cas au sein des mouvements sociaux, et à mon avis à juste titre, comme un pilier du projet d'Emmanuel Macron, raison pour laquelle aujourd'hui il y a des convergences qui se font, par exemple avec les luttes dans les hôpitaux, parce qu'on comprend bien que c'est un projet cohérent du gouvernement contre lequel s'opposent énormément de salariés, de représentants, par exemple, des services publics.
On n'a pas eu le temps d'évoquer le droit de réquisition, mais j'aimerais bien que vous nous fassiez, que vous nous remontriez quelques images d'un certain Nicolas Sarkozy au cours de votre chronique.
Mais, souvenez-vous, c'était donc en 2007, ça faisait la grande fierté de Nicolas Sarkozy, la loi sur le service minimum dans les transports, plus précisément, parce que c'était son vrai nom, la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs. Elle garantissait des grèves totalement indolores et invisibles pour les usagers. En tout cas, c'est ce que disait Nicolas Sarkozy, tout content. Regardez.
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Voilà, donc ces mots-là, c'est savoureux, ces mots-là, il les a répétés avec jubilation plusieurs fois pendant son mandat, avec toujours le même succès auprès de son public. Pour rappel, en tout cas, cette loi a été votée le 21 août 2007, puis elle a été complétée en 2012 sous le même gouvernement par la loi Diard. Et c'est un texte qui instaure deux choses. L'obligation pour les salariés d'indiquer 48 heures à l'avance leur intention de faire grève. Ça permet toujours à la direction de s'organiser et de redéployer des salariés non grévistes s'il y en a assez, c'est important. Ça obligeait également les entreprises de transport à informer les usagers des perturbations de manière gratuite, précise et fiable, au moins 24 heures à l'avance. Là, on l'a tous vu, c'est flagrant, c'est une loi qui n'oblige pas la SNCF ni la RATP à faire circuler des trains et des métros, et donc à réquisitionner du personnel. Il y a quand même une particularité qu'il faut signaler, la SNCF est bien contrainte de faire circuler au minimum un train sur trois, mais à cause du contrat qui la lie à Île-de-France Mobilité, ce qui s'appelait le STIF avant, et là aussi, on l'a vu, faute d'agents, ça n'a pas été possible pendant les grèves. Rémi Bourguignon, est-ce qu'on peut imaginer un jour que ce qui existe déjà pour certains services publics, l'hôpital par exemple, se soit étendu au transport? Et comment est-ce que ça passerait auprès de la population et des personnes concernées?
L'avenir, c'est toujours ça, difficile, hein, pourquoi pas, le débat pourrait évoluer, et puis au nom de la continuité du service public, avoir cette idée-là, c'est souvent un argument qui est repris. C'est vrai que cette séquence est intéressante, parce qu'il y avait effectivement cette intention, on voit plus les conflits, etc. Mais quelques années plus tard, le même Nicolas Sarkozy faisait une campagne de deuxième tour axée sur il va falloir affaiblir les syndicats puisqu'ils m'ont empêché de réformer. C'est comme ça qu'il justifiait le bilan qui était jugé insuffisant à cette époque-là. Donc ça n'a pas tué les mobilisations. Mais cette loi, qui est en fait pas une loi sur le service minimum mais sur le service garanti, effectivement, elle a quand même changé des choses. Et on voit bien que les deux derniers gros conflits à la SNCF, que ce soit la fin du statut des cheminots il y a maintenant un an et demi, ou désormais cette grève, ce sont des grèves qui ont été beaucoup moins efficaces qu'auparavant, parce qu'avec le même taux de grévistes, on aurait pu perturber beaucoup plus il y a quelques années. Mais désormais, effectivement, l'entreprise est capable de s'adapter, de proposer des alternatives, d'informer les usagers qui s'adaptent en conséquence. Et donc, les perturbations sont beaucoup moins fortes.